Un premier passage au livre du Deutéronome. Nous lirons quelques versets à la fin du livre. Au chapitre 33e, au verset 26e, nul n'est comme le Dieu de Jésus-Ran, qui est porté sur les cieux à ton secours et sur les nuées dans sa majesté. Le Dieu d'ancienneté est ta demeure et au-dessous de toi sont les bras éternels. Verset 29e. Tu es bienheureux, Israël. Qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire? Au premier livre de Samuel, au chapitre 7e du premier livre de Samuel, au verset 5, et Samuel dit, assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mispa, et ils puisèrent de l'eau, et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là et dirent, là, nous avons péché contre l'Éternel. Et Samuel jugea les fils d'Israël à Mispa. Et les Philistins apprirent que les fils d'Israël s'étaient assemblés à Mispa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Et les fils d'Israël l'apprirent et eurent peur des Philistins. Et les fils d'Israël dirent à Samuel, ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Et Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier à l'Éternel en holocauste. Et Samuel cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Comme Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour livrer bataille à l'Éternel. Et l'Éternel fit tonner ce jour-là un grand tonnerre sur les Philistins, et les mit en déroute et ils furent battus devant Israël. Et les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa et poursuivirent les Philistins et les frappèrent jusqu'au-dessous de Betcar. Et Samuel prit une pierre et la plaça entre Mitzpa et le rocher. Et il appela son nom Ebenezer et dit, l'Éternel nous a secourus jusqu'ici. Au livre des psaumes, au psaume 46e, au verset 4e, il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera pas ébranlée. Dieu la secourra au lever du matin. Et au psaume 63e, au psaume 63e, au verset 6e. Quand je me souviens de toi sur mon lit, je médite de toi durant les veilles de la nuit, car tu as été mon secours et à l'ombre de tes ailes je chanterai de joie. Mon âme s'attache à toi pour te suivre, ta droite me soutient. La parole d'un prophète. Le premier des petits prophètes, Osée. Après le livre du prophète Daniel, au chapitre 13e, le verset 9. C'est ta destruction, Israël, que tu aies été contre moi, contre ton secours. Et enfin, deux passages dans le Nouveau Testament au livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 26e, au verset 19e. Ainsi, ô roi Agrippa, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste, Mais j'ai annoncé premièrement à ceux d'Amas et à Jérusalem et à tout le pays de la Judée et aux nations de se repentir et de se tourner vers Dieu en faisant des œuvres convenables à la repentance. À cause de cela, les Juifs, m'ayant pris dans le temple, cherchaient à me tuer. Ayant donc reçu le secours qui vient de Dieu, me voici debout jusqu'à ce jour, rendant témoignage aux petits et aux grands, ne disant rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont annoncé de voir arriver, savoir qu'il fallait que le Christ fût soumis aux souffrances, et que le premier, par la résurrection des morts, il devait annoncer la lumière, et au peuple et aux nations. Et un dernier passage dans l'Épître aux Hébreux, le dernier verset du chapitre 4e, le verset 16e. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. Ce n'est pas un petit privilège, chers amis, que de pouvoir chanter des paroles telles que celles que nous venons de chanter, de pouvoir en fait exprimer une prière telle que celle que nous avons dans ce cantique 131e. Et nous avons chanté en réclamant de Dieu, de notre Dieu, toute grâce excellente. Nous avons chanté que en son puissant secours est toute notre attente. Combien il serait à désirer que nous réalisions de telles vérités. Nous le disons, et combien il importe que nous réalisions cet esprit de dépendance, dépendant du Seigneur, s'attendant à lui, à son tout-puissant secours, pour qu'il nous donne en effet ce pain dont notre âme a besoin, pas seulement de temps en temps, mais chaque jour, pas seulement en les circonstances telles que celles-ci, dans ces 3 jours où nous sommes particulièrement ensemble occupés de la parole de Dieu, mais chaque jour, notre âme a besoin d'être nourrie du céleste pain. Or, ce céleste pain n'est rien d'autre, personne d'autre, que le Seigneur Jésus lui-même. Combien il importe que nous réalisions du fond de notre cœur cet esprit de dépendance et que véritablement nous éprouvions notre petitesse, notre faiblesse, notre parfaite insuffisance pour ne compter que sur le secours tout-puissant du Seigneur. Et Dieu veuille que réellement, quand il s'agit par exemple de l'heure du rassemblement, quand il s'agit du ministère de la parole durant cette heure-là, que véritablement nous ne regardions pas à nous-mêmes, nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais qu'en son tout-puissant secours soit notre attente. Cette pensée est tellement réelle. Cela répond à une telle nécessité, le fait d'être secouru, que l'on n'est pas étonné de voir la parole de Dieu tout entière, pour ainsi dire, jalonnée de cette pensée du secours de Dieu et de la nécessité de ce secours. Nous avons lu intentionnellement quelques passages dans les différentes parties constituant de l'Ancien Testament où nous voyons soit cette attente dans le puissant secours de Dieu soit la reconnaissance à l'endroit de ce secours qui a été accordé. On n'a pas prié en vain, Dieu a répondu, Dieu a accordé son secours et l'on exprime sa reconnaissance en constatant que Dieu a entendu la prière, il l'a reçue, il y a répondu. Les parties constituantes de l'Ancien Testament, nous le savons, ce sont la loi, c'est-à-dire les saints livres de Moïse, les livres historiques, les psaumes auxquels on donne le nom de hagiographes, et les livres des prophètes. Du reste, le Seigneur Jésus lui-même, au jour de sa chair, a parlé de ces différentes divisions de l'Ancien Testament. Il parlait de cela. Quant à ses disciples, il parlait de la loi, des psaumes et des prophètes. Et nous voyons que dans chacune de ces parties constituantes de l'Ancien Testament, nous voyons que les âmes de Dieu, ceux qui ont marché avec Dieu, ceux qui ont eu affaire avec lui, ont éprouvé toujours la nécessité du secours divin. Nous avons lu un premier passage au livre du Deutéronome. Au livre du Deutéronome, nous arrivons au terme du voyage du peuple dans le désert. Au chapitre 33e, nous avons une bénédiction qui est prononcée de la part de Dieu par Moïse, homme de Dieu, à l'endroit de son peuple. Une bénédiction merveilleuse s'il en est une. Ce n'est pas exagéré de dire que le chapitre 33e du livre du Deutéronome est un des plus remarquables chapitres de tout l'Ancien Testament. On peut en dire de même, évidemment, du chapitre 49e du livre de la Genèse. La portée est différente dans l'un et dans l'autre chapitre. Moïse, homme de Dieu, est arrivé non seulement à la fin de son ministère, il est arrivé à la fin de sa vie. Et il prononce cette bénédiction sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Nous le répétons, bénédiction merveilleuse à l'endroit des tribus de son peuple. Et cette bénédiction se termine par une reconnaissance du secours dont tout au long de sa vie, il a été l'objet de la part de Dieu. Moïse s'efface, pour ainsi dire. Moïse ne se présente plus comme étant le conducteur du peuple à ce moment-là. Il est arrivé au terme de sa carrière et il rend gloire et hommage à Dieu et à Dieu seul. Il s'adresse à son peuple et il veut que son peuple comprenne que s'il est arrivé jusque-là, aux confins du désert, avant de traverser le Jourdain, c'est au secours de Dieu qu'il le doit. Nul n'est comme le Dieu de Jésus-Christ, qui est porté sur les cieux à ton secours et sur les nuées dans sa majesté. Israël, ce n'est pas à cause de moi, dit Moïse, que tu es arrivé au terme du désert. Il est vrai, bien des hommes en Israël sont tombés. Cela est vrai, mais il y a une autre génération. Et si l'on est arrivé au terme du désert, ce n'est pas à Moïse, à la sagesse, à la sagacité, aux capacités exceptionnelles de cet homme de Dieu que le peuple le devait. Moïse, nous le répétons, s'efface derrière son Dieu, pour ainsi dire, pour ne rendre hommage qu'à lui seul. Nul n'est comme le Dieu de Jésus-Christ. Il s'est porté dans les cieux au secours de mon peuple. Le Dieu d'ancienneté est ta demeure, et au-dessous de toi sont les bras éternels. Moi, semble dire Moïse, je m'en vais. Je suis arrivé au terme de ma carrière. Dieu va bientôt me reprendre à lui. Eh bien, moi-même, je m'en vais, mais Dieu demeure fidèle. Il est le Dieu de toujours et pour toujours. Il est le Dieu d'ancienneté. Il est celui au-dessous de toi, est-il dit, sont les bras éternels. Tu as pu, semble dire Moïse, bénéficier de ce que le Seigneur m'a donné en fait de dons et en fait de capacités. Mais je m'en vais maintenant. Tu n'auras plus mon bras pour être conduit. Mais il y a des bras qui demeurent. Il y a des bras éternels. Israël, au-dessous de toi sont les bras éternels. Tu peux regarder à ce Dieu. Tu peux compter sur lui. Tu peux compter sur son secours puissant. Même si je m'en vais, Dieu est là, qui continuera à s'occuper de toi, à te conduire d'étape en étape dans la terre promise. Il sera avec toi. Au-dessous de toi sont les bras, non pas d'un moment, non pas d'une vie d'homme, mais les bras éternels. Et ainsi Israël pouvait mettre toute son attente dans le puissant secours de son Dieu. On comprend l'exclamation de la fin de ces paroles. Ce sont les dernières paroles de Moïse. Tu es bien heureux, Israël. Elles sont merveilleuses, ces paroles de ce serviteur de Dieu, âgé de 120 ans, un vieillard qu'on va voir tout à l'heure gravir les coteaux dénudés du mont Nebo jusqu'au sommet du Pisga. Un vieillard, un dernier effort physique le demandé. Il monte seul, là-haut, jusqu'au sommet de la montagne. Et là, il va voir Dieu. Il va voir quelqu'un venant à sa rencontre. Et c'est celui qui viendra sur la montagne à sa rencontre, qui viendra le recueillir dans sa présence, ce sera personne d'autre que l'ami. L'ami fidèle, celui qui aura été toujours, chaque jour, durant la vie de Moïse, qui aura été l'ami, l'ami qui ne fait jamais défaut. Eh bien, avant de monter sur la montagne, il y a encore ces dernières paroles. Tu es bienheureux, Israël. Mais qui est comme toi, Israël? Te rends-tu compte du bonheur qu'elle tient? Tu es bienheureux, Israël. Pourquoi? Regarde au passé, un peuple sauvé par l'Éternel. Regarde au présent, le bouclier de ton secours. Regarde vers l'avenir, l'épée de ta gloire. Regarde au passé, le salut. Regarde au présent, le secours. Regarde à l'avenir, la gloire. Mais y avait-il un peuple plus heureux qu'Israël? Tu es bien heureux, Israël. C'est la dernière constatation, c'est la dernière parole que prononce Moïse. Et c'est comme en même temps une louange à l'adresse de ce que Dieu a fait et fera encore pour ce peuple. Eh bien, chers amis, Dieu n'a pas fait autre chose pour nous-mêmes. Nous avons besoin, on a parlé cet après-midi, de ce jour de la conversion, de ce jour heureux entre tous, auquel nous aimons à revenir, et Dieu veuille que nous y pensions davantage, ce beau jour, ce premier jour d'une vie nouvelle, ce jour où nous avons été mis en contact avec le Seigneur Jésus lui-même. Eh bien, il est bien heureux celui qui possède Jésus comme son sauveur. Il est bien heureux. Nous pouvons lui dire ce soir, tu es bien heureux, toi, qui connais Jésus pour ton sauveur personnel. Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel? Et pour le temps présent, chers amis croyants, qui avons-nous? chaque jour. Nous avons celui qui est le bouclier de notre secours, celui qui veut nous secourir, qui nous secourt de jour en jour. Puissions-nous apprécier les interventions d'un tel secours. Et nous nous en allons au devant de la gloire, nous attendons le retour du Seigneur. La parole nous l'a rappelé cet après-midi, celui qui a encore très peu de temps, et celui qui vient, viendra, et il ne tardera pas. Quel passé, chers amis, quel présent, quel avenir, c'est là la part du chrétien, et nous aimerions tant que ce soir, ce soit là la part de chacun ici présent, que chacun puisse connaître ce bonheur, le bonheur qu'il y a d'appartenir au Seigneur Jésus, de le connaître personnellement pour son Sauveur, d'apprécier son secours, chemin faisant, et d'attendre ainsi de se glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il est donc, chers amis, puissant, le témoignage qui est rendu par Moïse à la fin de ses jours, homme de Dieu, au secours, toujours efficace de Dieu. Nous avons lu un second passage, et c'est le témoignage qui est rendu par un autre homme de Dieu, un autre conducteur du peuple, qui s'appelle Samuel. Nous avons lu au chapitre 7e du premier livre de cet homme de Dieu, nous avons lu qu'une bataille s'est déclarée entre le peuple d'Israël et le peuple ennemi de ce peuple, c'est-à-dire les Philistins. La parole nous enseigne que pour que la victoire soit remportée, il y a des conditions à remplir. Il y a, disons, deux conditions, en tout cas d'après notre chapitre. La première de ces conditions, c'est reconnaître ce que l'on est soi-même. Nous ne sommes que de pauvres êtres, et les enfants d'Israël, sous l'impulsion de Samuel, ont été amenés à le reconnaître. Nous avons péché. Nous avons péché, ont-ils dit. Ils ont jeûné ce jour-là. Ils ont dit, là, en ce lieu, à Mitzpah, nous avons péché. Cela était important. Il fallait cette confession pour que Dieu puisse intervenir, accorder la victoire, bénir. Il fallait autre chose, il fallait l'activité, pour ainsi dire, médiatoriale de Samuel, c'est-à-dire d'un homme qui fut là pour prier Dieu, pour crier à lui. Et bien des fois, dans ces quelques versets que nous avons lus, nous voyons Samuel prier. Il est demandé à Samuel de ne pas cesser de prier. Il est parlé de Samuel qui a prié toute la nuit son Dieu. Et alors, à cause de l'intervention de Samuel, à cause des prières exprimées, à cause aussi de la confession du peuple, Dieu peut bénir. Et la victoire en effet est accordée, et Samuel désire qu'il subsiste au long des âges un mémorial de cette victoire remportée en fait par Dieu lui-même. Il a pris une pierre et il l'a dressée là dans la proximité de Mitzpah et il lui a donné un nom, le nom d'Ébénézer. Car, dit-il, l'Éternel nous a secourus jusqu'ici. Chers amis, il importe de reconnaître sa faiblesse, de reconnaître son indignité, pour pouvoir connaître alors l'efficacité du puissant secours de Dieu. Il importe aussi, et notre Seigneur est là, notre grand souverain sacrificateur, priant Dieu, pour nous, officiant, travaillant en notre faveur auprès de Dieu, n'oubliant aucune de ses brebis chéries, comme nous le chantons dans un cantique, Dieu alors peut accorder la victoire. Il l'a accordé à Samuel, il l'a accordé au peuple d'Israël, et il y a là cette pierre, Ébénézer, l'Éternel nous a secourus jusqu'ici, qui en est le témoignage éloquent. Samuel a été un homme de Dieu, Moïse également. Et il est intéressant, édifiant, de voir que ces deux hommes sont associés dans le livre de Jérémie. Ils sont présentés précisément comme étant des intercesseurs, des hommes qui n'ont cessé de prier pour le peuple de Dieu. Au temps de Jérémie, au début du chapitre 15 de son livre, le peuple est dans un état tel que Dieu ne peut plus répondre aux prières. Et il peut même dire ceci, « Moïse et Samuel se tiendraient devant moi pour prier que je n'écouterai pas, je n'interviendrai pas. » Mais cela fait ressortir ce qu'ont été ces deux hommes de Dieu, des hommes de prière, des hommes qui n'ont cessé d'intercéder, des hommes qui ont aimé le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu leur était très cher. Et qu'il puisse en être ainsi pour nous, chers amis, que ce que la parole de Dieu appelle l'Église ou l'Assemblée de Dieu, puisse nous être très cher. C'est le témoignage du Seigneur dans le temps présent. Autrefois, c'était le peuple d'Israël qui était le témoignage de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, il y a un témoignage conservé, un témoignage maintenu par la grâce de Dieu, et Dieu veuille, chers frères et sœurs, qu'un tel témoignage nous soit très cher à notre cœur encore, en dépit de toute sa faiblesse, comme le peuple d'Israël le fut pour le cœur de Moïse et le cœur de Samuel. Dans le livre des psaumes, nous nous arrêtons un moment au psaume 63e. Il nous est dit dans ce psaume, « Quand je me souviens de toi sur mon lit, je médite de toi durant les veilles de la nuit, car tu as été mon secours. » Nous avons là encore un conducteur du peuple. C'est David. Nous avons vu Moïse, nous avons vu Samuel, et maintenant nous avons un témoignage qui est rendu par David. Et David, dans ce beau psaume 63, auquel nous revenons avec raison souvent, rend également témoignage à ce fait que Dieu a été son secours. Les psaumes 61, 62, et 63 forment un tout. Au psaume 61, nous avons une âme accablée. Dans l'accablement de mon cœur du bout de la terre, je crierai à toi. Une âme, un cœur accablé. Alors Dieu répond déjà au psaume 61 et au psaume 62. L'âme fait état des expériences qu'elle a faites avec un tel Dieu. Dans le psaume 62e, nous avons sept fois le nom de Dieu. Dieu est mentionné à sept reprises, ni à six, ni à huit, à sept reprises. Et le psalmiste parle du nom de Dieu pour dire tout ce qu'il a en Dieu. Les louanges de Dieu qui lui a été en secours. Il peut méditer de lui, même dans la nuit. Ça lui est agréable, précieux, bienfaisant de penser à Dieu dans les veilles de la nuit. Pourquoi ? Tu as été mon secours, et à l'ombre de tes ailes, je chanterai de joie. Ayant réalisé qu'en Dieu, il avait tout le secours dont il avait besoin, il exprime maintenant sa reconnaissance. Et là, à l'abri, à l'ombre de tes ailes, je chanterai de joie. Il ne peut pas faire autre chose en pensant au secours puissant et efficace de Dieu. Il ne peut pas faire autre chose que de chanter de joie. Je chanterai de joie. Et alors, il prend confiance. Il est maintenu dans sa confiance, il est fortifié dans sa foi, et il peut dire plus loin, Mon âme s'attache à toi pour te suivre. Ta droite me soutient. Il a connu le secours de Dieu. Tu m'as été en secours. Alors, il peut persévérer. Il est encouragé à persévérer dans le chemin de la confiance. Mon âme s'attache à toi pour te suivre. Mais qui suis-je pour te suivre toujours? J'ai besoin de ton secours toujours. Voici, ta droite est là pour me soutenir. Ta droite, l'expression de la puissance, ta droite me soutient. Parce qu'elle me soutient, je suis capable de m'attacher à toi pour te suivre. Un passage dans le livre des prophètes, dans les livres des prophètes. Rappelons ce passage du prophète Ésaïe, que nous n'avons pas lu. Au début du chapitre 31 de ce livre du prophète Ésaïe, il y a un malheur qui est invoqué sur ceux qui vont chercher du secours ailleurs qu'en Dieu. Chers amis, le vrai secours et le seul secours ne se trouve qu'en Dieu. Dieu connaît nos exercices à tous, nous en avons tous. Il connaît nos peines, il connaît nos épreuves, des épreuves qui sont plus astreignantes aujourd'hui, en ce moment, pour les uns que pour les autres. Mais Dieu est au courant de tout. Il connaît toutes nos circonstances. Auprès de qui est-ce que dans nos exercices et dans nos épreuves, nous irons chercher le secours? Auprès de qui? Mais auprès de Dieu. Auprès du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'irons pas ailleurs. Nous n'irons pas ailleurs. Malheur, dit le prophète Jérémie, maudit est celui qui fait de la chair son bras. Nous n'irons pas ailleurs. Eh bien, en Ésaïe 31, il est parlé de ceux qui descendent en Égypte. L'Égypte, c'est le monde. C'est le monde, rien d'autre. C'est le monde. Il y en a qui descendent du peuple d'Israël. On pouvait descendre en Égypte pour aller chercher du secours. Malheur à ceux qui vont là-bas. Malheur à ceux qui vont dans le monde. Chercher du secours dans le monde. S'appuyer sur le monde, sur l'homme, sur les choses qui sont dans le monde. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour aller chercher du secours. Non, chers amis, le secours, le vrai secours, le secours efficace ne se trouve qu'en notre Dieu. Le peuple d'Israël n'a pas écouté cette mise en garde de Dieu par son prophète. Au chapitre 31 d'Ésaïe, il doit dire alors par l'entremise d'un autre prophète, le prophète Osée, le passage qui a été lu. Et qu'est-ce que Dieu doit dire au chapitre 13 du livre d'Osée, le verset 9. Il est solennel ce passage, nous le relisons, deux lignes. Il est solennel et nous voulons nous en souvenir. C'est ta destruction, Israël, que tu aies été contre moi, contre ton secours. C'est ta destruction. Si tu en es là, si tu en es arrivé là, eh bien c'est parce que tu as été sans cesse opposé à moi. Tu as marché dans le chemin de l'indépendance et de la volonté propre. Tu t'es opposé sans cesse à ma volonté. Tu as été contre moi. Et moi, qu'est-ce que je voulais pour toi? Je voulais qu'une chose, te secourir. Rien d'autre. Je voulais te secourir. Le secours est ici personnifié. Contre moi, c'est-à-dire contre ton secours. Moi qui ne voulais que te secourir. Je n'avais pas d'autre pensée. Tu as été contre moi, par conséquent, tu as été contre ton secours, contre celui qui voulait te secourir. N'ayant plus de secours venant de moi, qu'en résulte-t-il pour toi? C'est ta destruction, Israël, que tu aies été contre moi, contre ton secours. Moi, qui ne voulais être pour toi rien d'autre, que ton secours est toujours ton secours. C'est une parole très sérieuse. Elle est solennelle. Dieu ne parle pas en vain. Et nous devons, chers amis, y attacher toute notre attention. Parce que dans un sens. Ce qu'un homme sème, cela aussi le moissonne. Si nous marchons dans un chemin de propre volonté, si nous faisons fi de la volonté de Dieu, si en fait nous marchons contre Dieu, nous ne pouvons pas compter sur son secours. Si un jour, pour employer le terme du prophète, la destruction vient, la faute sera bel et bien de notre côté. Dieu aura voulu nous secourir, mais il ne le pouvait pas du moment que nous marchions dans le chemin de notre propre volonté. C'est ta destruction, Israël, que tu aies été contre moi, contre ton secours. Ce qu'un homme sème, cela aussi le moissonne. Et finalement, dans le Nouveau Testament, nous avons le témoignage d'un apôtre. Nous avons donc le témoignage de conducteurs. Nous avons le témoignage d'un roi comme David. Nous avons le témoignage de prophètes, Ésaïe, Osée, il y en aurait d'autres. Nous avons maintenant le témoignage d'un apôtre. Nous sommes ici au chapitre 26e du livre des Actes. Le livre des Actes a une structure extrêmement simple. Il se divise en trois parties. Le premier chapitre, l'ascension du Seigneur. Les chapitres 2 à 12, le ministère de l'apôtre Pierre. Et du chapitre 13 à la fin, le ministère de l'apôtre Paul. Ce ministère, le récit du ministère de l'apôtre Paul, se divise lui-même en deux parties. Depuis le chapitre 13 jusqu'au chapitre 20, nous avons là l'activité de l'apôtre Paul en Orient. Et au chapitre 20e, nous voyons clairement que l'apôtre avait conscience que son ministère en Orient était terminé. Il prend congé des frères, des anciens de l'assemblée à Éphèse. Nous connaissons ces adieux, combien touchants et en même temps d'une richesse d'enseignement inouïe. Mais c'est là qu'il dit précisément, et maintenant je monte à Jérusalem, je ne sais pas ce qui m'attend, mais l'Esprit Saint rend témoignage de ville en ville que des souffrances et des tribulations m'attendent. Et alors, depuis le chapitre 21e, nous voyons l'apôtre monter à Jérusalem. On s'est souvent posé la question, savoir si l'apôtre Paul avait eu raison de monter à Jérusalem. Quelquefois même, on s'est autorisé à faire quelques reproches ou exprimer quelques critiques, ce qui est parfaitement déplacé, faut-il le dire. Du moment que le Seigneur Jésus lui-même, dans la dernière nuit que l'apôtre Paul a passée à Jérusalem, a pu lui dire « Paul, aie bon courage ». Le Seigneur se tient près de lui à Jérusalem. Il se tient près de lui dans le silence de la forteresse. Paul, aie bon courage. Tu as souffert pour mon nom à Jérusalem. Tu auras encore à souffrir pour mon nom à Rome. Et alors, depuis ce chapitre 21e, l'apôtre Paul devient un prisonnier. Il n'est plus le serviteur du Seigneur libre. Il est le serviteur qui est devenu le prisonnier du Christ Jésus. Il continuera à annoncer la parole, mais il ne sera plus libre. Il sera lié de chair. Mais il dira aussi aux Philippiens, par exemple, que les liens dont il a été lié ont été encore pour l'avancement de la parole de Dieu, n'ont pas été un obstacle. Et ainsi, au chapitre 21, nous le voyons monter à Jérusalem. Au chapitre 2, en présence d'une foule déchaînée, il prononce cette magnifique apologie, la première des trois qu'il a prononcée, la première au chapitre 22, la deuxième au chapitre 24 et la troisième dans notre chapitre 26e. Et l'apôtre est amené à comparaître devant le Sanhédrin au chapitre 23e. Le Seigneur Jésus avait dit, il l'avait dit à ses disciples, « Il viendra, l'heure viendra, où vous aurez à comparaître devant les Sanhédrins, devant les gouverneurs et devant les rois. » Lisons Matthieu 10, le verset 17 est explicite à cet égard. Le Seigneur Jésus l'avait déjà dit, et l'apôtre Paul a suivi exactement ce chemin prédit par le Seigneur. Au chapitre 23e, il comparaît devant le Sanhédrin. Au chapitre 24e, il comparaît devant le gouverneur, Félix. Et au chapitre 26e, il comparaît devant le roi. Première comparution de l'apôtre devant le roi, devant le roi Agrippa, ou Hérode Agrippa II. Le Seigneur l'avait dit, et l'apôtre, son serviteur fidèle, a comparu ainsi devant le Sanhédrin, devant les gouverneurs et devant les rois. Nous avons là cette troisième apologie au chapitre 26e, et il y a une terminaison admirable, véritablement admirable de cette apologie. Tu vois, ô roi Agrippa, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Du ciel, des ordres m'ont été donnés. J'ai obéi à ces ordres. Je me suis soumis. J'ai accompli ce que la volonté de Dieu me disait depuis le ciel. Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Et voilà pourquoi les Juifs, ce peuple que j'aime tant, je voudrais tellement qu'il soit sauvé. Le désir ardent de mon cœur, c'est qu'il soit sauvé. À cause de cela, ils font tout, ils cherchent absolument à me tuer. Et c'est alors que l'apôtre rend ce témoignage admirable à l'intervention constante de Dieu, ayant donc reçu le secours qui vient de Dieu, je suis là, debout jusqu'à ce jour. Ce n'est pas à moi que je le dois, si je suis debout, là encore, aujourd'hui, alors que les Juifs ont tant de fois cherché à me faire mourir, et pas seulement les Juifs, mais encore d'autres personnes, si je suis là, debout, c'est au seul secours de Dieu que je le dois. Ayant donc, c'est la conclusion de l'apologie, l'apôtre s'efface, comme Moïse s'est effacé au début de Deutéronome, l'apôtre s'efface pour rendre gloire, toute gloire à Dieu. Ayant donc reçu le secours qui vient de Dieu, je suis là debout jusqu'à cette heure, et je continue à rendre témoignage, selon les enseignements des prophètes, que le Christ devait mourir, devait être soumis aux souffrances, devait également ressusciter, que le premier, il annoncerait, il dirait ce qu'est la lumière et au peuple et aux nations. Le temps est passé et il vaudrait la peine, chers amis, de relire pour soi-même attentivement ces chapitres 21 à 26 du livre des Actes. Cette portion du livre des Actes où nous voyons, malgré tout, malgré les avertissements du Saint-Esprit lui-même, nous voyons l'apôtre Paul monter quand même à Jérusalem. Ah, c'est le Saint-Esprit qui avait dit, les frères de Tyr, au début du chapitre 21, lui ont dit, par l'Esprit Saint, Paul, ne monte pas à Jérusalem. Un peu plus tard, un prophète est suscité du nom d'Agabus. L'Esprit Saint dit, voilà ce qu'arrivera à Paul. Il sera lié s'il monte à Jérusalem. C'est le Saint-Esprit qui avait dit cela. Alors l'apôtre de dire, mais comment, que faites-vous de briser ainsi mon cœur, moi qui suis prêt à mourir pour le nom du Seigneur Jésus? Mais ma vie m'importe peu. Mais que l'apôtre n'est pas monté, conduit par l'Esprit Saint, mais mu par ses sentiments d'affection profonde pour son peuple selon la chair, de voir, malgré tout, les interventions incessantes de la bonté du Seigneur à l'endroit de son serviteur. Il n'a jamais laissé un instant son serviteur, et son serviteur lui rend cet hommage tout à la fin de cette apologie en disant, « Ayant donc reçu le secours qui vient de Dieu, je suis là, debout jusqu'à cette heure, et je continue à rendre témoignage à son nom. » Chers amis, heureux sommes-nous en effet de connaître un tel secours. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce. C'est là que nous trouverons ce secours dont nous avons besoin. On connaît les impératifs de ce chapitre 4e de l'Épître aux Hébreux. Il y en a 4. Le dernier est celui-ci. Approchons-nous donc. Craignons. Prenons garde. Ensuite, appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là. Tenons ferme notre confession. Et quatrièmement, approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce. C'est de là que nous recevons, chers amis, et la grâce, et la miséricorde, et le secours dont nous avons besoin au moment opportun. Qu'est-ce que c'est que le moment opportun pour le chrétien? Qu'est-ce que c'est? Le moment opportun, c'est tous les moments de sa vie, c'est toujours, c'est chaque jour, c'est tout instant du jour, le moment opportun pour le chrétien. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce. C'est là encore le témoignage d'un apôtre qui vient nous dire que du trône de la grâce, nous aurons toujours grâce, miséricorde et le secours dont nous avons besoin. Et puissions-nous apprendre davantage à réaliser tout ce que comporte cette parole du cantique que nous avons chanté en ton puissant secours et toute notre attente. Du psaume 22e pour nous faire nous souvenir que s'il y a un secours pour nous en tout temps, c'est parce que il y a eu un moment où celui et qui seul avait droit à tout le secours divin ne l'a pas trouvé quand il l'invoquait. Seigneur Jésus, prophétiquement, au psaume 22, peut dire, après avoir dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Verset 11, « Ne te tiens pas loin de moi, car la détresse est proche, car il n'y a personne qui se court, personne, ni sur la terre, ni dans le ciel. »
Verset 19. Et toi, Éternel, ne te tiens pas loin. Ma force, hâte-toi de me secourir. Et encore, dans le psaume 40, verset 17. Et moi, je suis affligé et pauvre. Le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et celui qui me délivre. Mon Dieu, ne tarde pas. Et je relis, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à ce prix-là que le secours divin nous a été acquis.